nouveautés faites au Québec, ici, on en a des tonnes de copies. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Question de savoir, l'émission des cycles supérieurs de l'Université Laval, présentée par l'Association des étudiants et étudiantes de Laval inscrits aux études supérieures, l'ALIE. Mon nom est Marie-Ève Duchesne et je suis attachée aux communications. Aujourd'hui, l'émission portera sur les chantiers d'avenir de l'Université Laval avec Julia Gaudreau-Perron, conseillère à l'innovation. Bonjour et bienvenue à Question de savoir.
Bonjour Marie-Ève, merci de m'accueillir.
Ça me fait plaisir. Pour commencer, pour nos auditeurs, qu'est-ce que sont les chantiers d'avenir et quelle est leur origine?
Les chantiers d'avenir, c'est une grande démarche à l'Université Laval. D'ailleurs, ceux et celles qui auront lu la planification stratégique 2017-2022, les chantiers d'avenir s'y trouvent là, en plein cœur de cette planification-là. Donc, c'est une grande initiative qu'on s'est donnée pour imaginer des formations interdisciplinaires autour de grands défis de société. Donc, la caractéristique principale des chantiers, c'est d'être articulé autour d'un grand défi de société. J'aime toujours prendre la question du climat comme exemple pour parler des chantiers climatiques. Ce qu'on se donne comme mission, là, c'est de former des gens qui vont être capables de résoudre ou de contribuer à résoudre des grands défis de société, comme celui du climat, par exemple. Et pour faire ça, il faut faire appel à des formations qui tirent profit de différentes disciplines, donc des connaissances qui vont être dans plus qu'un domaine de science ou un grand domaine de savoir, ce qui est assez inhabituel dans une université. Tu sais, on fonctionne vraiment par faculté, hein, tout est pensé par faculté. On en a, je pense, 17 à l'Université Laval qui comprennent chacune des départements, des écoles et qui sont un peu des micro-universités en soi. Et l'idée avec les chantiers d'avenir, c'est de faire travailler des gens de différents départements, différentes facultés au sein d'une même formation, donc au sein d'un même programme de formation qui vont être fortement interdisciplinaires. Donc, si je reviens avec l'exemple du climat, si on veut former des gens qui vont être capables un jour de résoudre ce fameux défi de société-là qui nous préoccupe tous, bien, il faut être capable de former des gens qui ne seront pas que en environnement ou en politique ou en économie ou en sociologie. Ça prend des gens qui ont un petit morceau dans chacune de ces disciplines-là puis qui ont des compétences transversales qui vont être capables de mettre à contribution pour résoudre ces grands défis de société-là. Donc, l'approche dans les chantiers d'avenir, c'est vraiment une approche interdisciplinaire. On veut vraiment dépasser les frontières de nos facultés. C'est assez inhabituel, comme je le disais, de fonctionner comme ça. Donc, en même temps, c'est un véhicule d'innovation pour l'Université Laval parce que ça nous oblige à travailler autrement, à penser les choses autrement, puis à vraiment être en mode collaboratif d'une faculté à l'autre, puis de vraiment être des alliés là, là-dedans, en fait, dans la résolution de ces grands défis-là.
J'aime l'exemple parce que, par exemple, pour un chantier d'avenir sur le climat, on mentionne que les facultés sont interdisciplinaires puis travaillent ensemble. Est-ce que tu as d'autres exemples de d'autres chantiers d'avenir qui pourraient justement travailler ensemble?
Oui, absolument. Mais en fait, je donnais l'exemple du climat, mais on n'a pas de chantier d'avenir sur la question climatique pour l'instant. On en a trois qui sont actifs où on a déjà des cohortes qui sont en apprentissage présentement, là. Donc, un premier chantier d'avenir sur l'intelligence et transformation. Donc, ce chantier-là s'intéresse aux défis de société qu'est la transformation rapide, par exemple, causée par une pandémie ou causée par le virage numérique. Il faut que nos organisations, que nos façons de faire se transforment face à ces changements-là qui nous arrivent, souvent de manière imprévue et souvent de manière très, très rapide. Donc, ce chantier d'avenir-là met à contribution différentes disciplines comme la psychologie, le design. On est vraiment dans une approche là, de d'innovation puis de capacité de tirer profit pour, avec le mot intelligence, là, ça inclut vraiment les intelligences humaines, intelligence d'affaires et intelligence de données ou intelligence artificielle aussi, pour rendre nos organisations et notre société plus intelligentes ou plus, je dirais, plus capables de faire face aux changements et bien s'adapter. Donc ça, c'est notre premier chantier d'avenir qui existe depuis 3 ans déjà. On est en cours là, de notre 3e cohorte qui a débuté en septembre.
Et il y en a une en sécurité alimentaire et en équité, diversité et inclusion.
Oui, en fait, je te parlais tout à l'heure du premier chantier d'avenir qui est en intelligence et transformation. Le deuxième est en sécurité alimentaire. Donc vraiment, sur toute la question d'une agriculture, d'un système alimentaire, d'une alimentation saine pour tous et toutes et qui soit fait de manière aussi durable. C'est important que ce soit fait de cette manière-là. Donc, on parle de sécurité alimentaire quand on a des systèmes alimentaires qui, de la terre jusqu'à l'assiette, vont être équitables et durables pour tous et toutes. Donc, ça implique tout un paquet de disciplines, ça, faire ça. Ça implique à la fois l'agriculture, l'agroéconomie, le développement international, le droit aussi, puis même la nutrition, là, quand on pense au volet consommation de la chose, parce qu'on est vraiment là dans la production, transformation, distribution, consommation des aliments lorsqu'on parle de l'entièreté du système alimentaire. Puis notre troisième chantier d'avenir, tu le mentionnais tout à l'heure, il est en EDI, donc équité, diversité, inclusion. On avait déjà plein de formations sur différents groupes marginalisés et minoritaires à l'Université Laval. Donc, on peut faire des études féministes, on peut faire des études autochtones, on peut suivre un cours sur les personnes en situation de handicap, en études interculturelles et autres. Mais ce qu'on voulait, c'est former des gens qui ont vraiment la capacité d'accueillir l'ensemble de ces groupes marginalisés-là et des personnes qui les composent dans leur réalité particulière et de les accueillir dans nos organisations pour faire de ces milieux-là des milieux beaucoup plus inclusifs et équitables pour tous et toutes. Donc, on est allé chercher vraiment des cours en travail social, en communication, en management. C'est vraiment très, très, très varié et très interdisciplinaire, encore une fois. Donc, voilà. Donc, tu vois, avec ces 3 exemples-là, des 3 chantiers qui sont déjà en cours, tu vois comme c'est stratégique pour notre université là, d'imaginer vraiment une nouvelle façon d'offrir de la formation. Puis, l'autre chose qui est importante de comprendre aussi, c'est qu'on fonctionne avec des programmes qui sont dits sur mesure. Donc, chacune des maîtrises sur mesure, là, les 3 dont je viens de parler, ce sont 3 maîtrises. Ça a donné comme ça. Ça pourrait être des bacs, ça pourrait être des doctorats, ça pourrait être d'autres formats aussi. Mais pour l'instant, ce sont des maîtrises sur mesure et elles sont rattachées à la Faculté des études supérieures et postdoctorales, ce qui nous permet, dans la coquille des programmes sur mesure, de s'ajuster constamment. Donc, de dire, ben, on va innover, on va ajouter des cours, on est très, très proche de nos cohortes étudiants et étudiantes aussi. Ce sont des petits groupes d'une 30aine d'étudiants et étudiantes, ce qui nous permet de vraiment profiter de la rétroaction là, de nos cohortes. Donc, on rencontre nos étudiants, par exemple, je te donne un exemple, on les a vus en décembre dernier pour qu'ils nous parlent de comment ça se passait dans leur cours de l'automne. Puis à cette rencontre-là, les profs de l'hiver qui donnaient les cours qui s'en venaient à la session suivante étaient présents pour entendre c'est quoi les rétroactions, qu'est-ce qui peut être amélioré, quels sont les besoins des étudiants et étudiantes pour qu'on soit capable de s'ajuster vraiment en temps réel et non pas qu'on fasse une évaluation de cours ou de programme qui sert à d'autres cohortes. On voulait vraiment que ça serve là, immédiatement pour les cohortes puis d'être un peu plus en mode réactif, agile pour vraiment bien s'adapter. Donc, c'est une approche qui est assez nouvelle. Je dis souvent que les chantiers, c'est un véhicule d'innovation parce que c'est un concentré d'innovation. On n'invente rien dans les caractéristiques fines des chantiers d'avenir. C'est des choses qui existent dans d'autres programmes. Hein. L'interdisciplinarité, il y en a dans d'autres programmes. L'apprentissage par projet, on en parlera tout à l'heure. Ça existe dans d'autres programmes aussi. Puis il y a de l'innovation un peu partout dans différentes facultés et départements à l'Université Laval. Dans les chantiers, on se donne un véhicule, comme je disais, où on fait un concentré d'innovation, où on va vraiment mettre toutes ces façons de faire-là un peu plus innovantes ensemble pour voir comment on peut vraiment amener des nouvelles approches pour répondre aux grands défis de société. Donc, c'est un peu un mode de laboratoire où on travaille avec tant nos profs en faculté, évidemment, les gens en faculté sont là, les partenaires du milieu, puis nos étudiants et étudiantes aussi nous aident à construire ces programmes-là. Ça se fait vraiment dans une approche très, très collaborative.
Pour ceux et celles qui seraient intéressés, vous êtes aussi en recrutement dans les prochaines semaines pour ces nouvelles cohortes-là?
Oui, en fait, on est à démarrer les actions de recrutement pour nos prochaines cohortes qui vont démarrer en septembre prochain. Donc, vous pouvez vraiment, bien sûr, aller voir sur notre site web. Les projets vont apparaître. Donc, comme je le disais, on a trois chantiers d'avenir qui sont en cours en intelligence et transformation, sécurité alimentaire et équité, diversité, inclusion. Ce sont trois programmes sur mesure qui sont complètement différents et qui ont en commun d'être articulés autour d'un grand défi de société, d'être interdisciplinaire, d'être dans une pédagogie par projet, puis d'être vraiment en mode on se met ensemble pour attaquer ces grandes questions-là de société.
J'aime aussi qu'on parle de la structure du programme. On le mentionnait, c'est rattaché à la faculté des études supérieures et postdoctorales. Et comment sont structurés ces programmes-là? Est-ce que vous avez des cours qui sont sur mesure pour ces chantiers d'avenir-là? Comment ça fonctionne un peu? Puis quels sont les partenaires avec lesquels vous faites affaire pour les chantiers d'avenir?
Il y a plein de choses dans ta question. Je vais essayer de prendre chaque morceau. En fait, la structure de chaque maîtrise sur mesure des chantiers d'avenir est assez différente. Tu vois, intelligence et transformation, c'est une maîtrise qui est sur 10 mois. C'est super intense. Donc, en moins d'un an, là, tu accomplis un 45 crédits très, très intense avec une cohorte. Il y a vraiment un effet de cohorte très fort dans cette maîtrise-là. Dans chaque chantier, ce qui est vraiment commun, là, c'est d'avoir un projet. Donc, chaque étudiant et étudiante est placée vraiment dans l'action avec un partenaire du milieu, justement, ce qui touche à ta deuxième question, là. Donc, vraiment dans la structure du programme comme tel, ça peut être variable, la durée est variable. Donc, on en a une qui dure 10 mois, on a équité, diversité, inclusion qui est un petit peu plus long, ça peut s'étendre sur un an et demi, puis on peut même la faire à temps partiel, cette maîtrise-là également. Puis même chose en sécurité alimentaire, qui est à faire entièrement à distance également. On a des étudiants et étudiantes qui sont situés dans d'autres pays qui suivent la maîtrise puis qui font leur projet dans leur milieu. Donc, la structure de cours, la structure de crédit va varier d'un chantier à l'autre. Donc, ça, vous pouvez évidemment aller tout voir ça sur notre site web. C'est très bien expliqué pour chaque chantier. Mais reste que dans la structure de chacun des chantiers, il y a des cours dans différentes facultés, puis il y a surtout des crédits de projet. Puis on parle pas ici de projets de recherche comme tel, c'est beaucoup des projets de recherche, d'intervention en fait, beaucoup plus. Donc on est dans l'action, puis l'idée est vraiment d'aller contribuer déjà à travers les projets à changer un petit peu le monde, là, t'sais, à changer les choses par rapport à l'enjeu de société qui nous a intéressés quand on s'est inscrit à ce chantier-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans l'action, puis à ces projets-là se greffent différents cours dans différentes facultés selon les chantiers, là, selon l'enjeu de société concerné.
Donc, l'étudiant peut être un peu maître de son programme d'études. C'est un peu comme un bac multi version maîtrise.
Ben en fait, tu sais, c'est des programmes sur mesure, mais les choix de cours sont déjà cannés, là, si je peux dire, sont déjà préparés. Tu sais, nous, on a fait l'exercice là, avec les profs qui sont impliqués de vraiment choisir, OK, si on veut former quelqu'un autour de la sécurité alimentaire, il faut qu'il y ait tel cours, il faut qu'il y ait tel autre cours. Donc, il y a des cours à option, mais il y a vraiment quand même plusieurs cours qui sont obligatoires puis qui sont pris dans chacune des facultés impliquées, parce que pour nous, il faut faire vraiment le bon tour d'horizon pour former ces gens-là à l'enjeu. Donc, oui, sur mesure, mais ce n'est pas le sur mesure traditionnel, c'est plus un sur mesure pour une cohorte. Donc, si je prends mes 30 étudiants qui sont en intelligence et transformation depuis cet automne, ils vont suivre sensiblement les mêmes cours, vont avoir sensiblement les mêmes crédits, sauf quelques cours à option. Donc, c'est pour ça qu'on veut aussi avoir un effet de cohorte. Là. On veut qu'ils soient ensemble, puis on veut que, comme ils proviennent de différents domaines, ils ont différents âges, ils sont très, très variés dans leur profil, nos étudiants et étudiantes, bien, on veut vraiment qu'ils puissent avoir une expérience similaire puis avoir des moments où, justement, on profite de ces croisements-là, là, d'un étudiant qui vient du bac en psychologie versus une étudiante qui a fait, je ne sais pas moi, un bac en sciences et génie, là, complètement dans un autre domaine. Puis ces rencontres-là, en soi, sont des occasions d'apprentissage super riches dans les chantiers d'avenir.
C'est intéressant de voir comment les programmes peuvent apprendre l'un des autres. On va prendre une petite pause musicale avant de continuer sur les chantiers d'avenir. Vous écoutez Question de savoir sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
La seule affaire que je plus grande mes ambitions, c'est me vouloir m'assir puis faire rien de bon. Ah ben y'a tout le temps mon, every day's a new day, et puis un m'avant, nerve baisser ma tête, puis le plus de fun, et comme une béto, elle m'enfonce. Ma motivation comme un roller coaster, hot, belle, cold out, non, fun à l'eau. Tous les fois que je ferme mes yeux, I roll le gros poster, ça belle, sold out, des billy boys. Si le hecho por ir a mon show, vous comprendrez jamais qu'on se fait dur puisque petit crapaud ou set. Some show sit dans le chair, que la whole face set Marie. Brûle le pont d'une seule card, c'est des varies.
The man of them all along. The man's playing pour un marathon. The man's gaspy points of gold. The man of a shine.
Retour à Question de savoir sur les ondes de Chiz 94.3, Marie-Ève Duchesne en compagnie de Julia Gaudreau-Perron, qui est conseillère à l'innovation de l'Université Laval. On en parlait un peu avant des programmes d'études. Quelles sont les compétences que peuvent acquérir les étudiants et étudiantes dans ces programmes?
Bien, c'est une question super importante parce que, tu vois, je te parlais de toutes les disciplines qui sont concernées, le fait qu'on va chercher des cours dans différentes facultés. Donc, tu as bien compris ce qu'on fait. On n'est pas autour des connaissances. On est vraiment autour des compétences. Puis le pari qu'on a fait dans les chantiers d'avenir, c'est qu'on prépare des gens qui vont occuper des professions, des emplois qui n'existent pas nécessairement aujourd'hui. Je reprends mon exemple du climat, ou tiens, je peux prendre celui en EDI. Des conseillers, conseillères en EDI dans les organisations, ça n'existait pas avant, il y a quelques années. C'est une profession qui a émergé en fonction des besoins. Puis, tu sais, dans la foulée de hashtag MeToo, de Black Lives Matter, il y a plein d'événements hautement médiatisés, beaucoup d'événements fort malheureux par ailleurs, qui ont amené les organisations à dire, OK, là, nous, il faut qu'on fasse quelque chose pour être une organisation plus inclusive. Donc là, ils ont créé souvent des postes de conseillère en EDI sans qu'il y ait des formations qui permettent de bien préparer ces gens-là à occuper leurs fonctions. Fait que c'est des métiers qui émergent, des professions qui émergent. Puis le pari qu'on fait, c'est qu'il faut qu'on prépare nos étudiants et étudiantes à des professions qui n'existent pas encore nécessairement. Fait que t'imagines toute la complexité qu'on a eue de dire, OK, ben ça va être quoi les compétences qui vont être importantes, peu importe le chantier d'avenir, peu importe le grand défi de société. Ben pour nous, c'est des compétences qui sont transversales. On les appelle nos compétences d'avenir. On a un référentiel d'une dizaine de compétences qui sont transversales d'une profession à l'autre. Donc, souvent, on s'est tourné là, vers vraiment le milieu de la pratique, la littérature professionnelle, la littérature scientifique, pour voir, ben, ça va être quoi les compétences transversales qui vont être requises dans les métiers du futur ou qu'ils sont déjà là, dans les nouvelles tendances. Et on s'est bâti un petit référentiel comme ça d'une dizaine de compétences. Pour te donner des exemples, ça passe de la capacité d'adaptation, bien sûr, faire face aux changements, tolérer l'ambiguïté, être capable de s'adapter, de tenir compte d'une réalité différente de la sienne aussi. Il y a toutes les compétences autour de la résolution de problèmes complexes, de la créativité, de la communication, l'engagement social, l'esprit d'initiative, le traitement de l'information inévitablement aussi dans le monde dans lequel on vit. Puis je te dirais que notre principale, là, celle qui est au cœur vraiment de chacun de nos chantiers d'avenir, c'est la pensée complexe. D'être capable d'embrasser un enjeu de société dans toutes ses coutures, là, sous toutes ses coutures, dans tous ses angles, puis d'être capable de faire cohabiter deux perspectives. Si je regarde la question climatique, dans un cours en environnement versus dans un cours en économie, ça se peut que j'ai deux postures qui soient un petit peu confrontantes entre elles. Ce qu'on veut, c'est justement exposer nos étudiants à ce genre de confrontation-là, puis qu'ils soient capables de développer une tête là, qui est capable de vraiment voir ça dans toute cette complexité-là, puis de faire cohabiter ces angles-là, puis d'en tirer le meilleur, en fait, pour éventuellement là, contribuer à résoudre ces grands défis-là. Plutôt que de rester chacun dans sa cour disciplinaire, puis de dire, ah, ben moi, je tire du côté de l'économie, puis mon voisin, lui, il tire du côté de l'environnement, puis que là, on soit jamais capable de se rencontrer. Ce qu'on veut, c'est former des gens qui comprennent ces dynamiques-là, puis qui traversent, comme je le disais tout à l'heure, les frontières disciplinaires, puis les frontières des idées qui sont souvent véhiculées dans une discipline versus une autre. Ces compétences-là, là, on en a une dizaine, comme je te disais, puis elles sont propres au leadership, puis je dirais même on dit souvent là, dans nos termes le leadership de demain. Là, on se dit souvent qu'on veut former des leaders de demain. C'est un peu notre grande mission là, dans les chantiers d'avenir, des leaders qui vont être capables de résoudre les défis de société. Pour faire ça, on s'est donné un deuxième véhicule qui est celui du cercle des leaders qui a été mis en place dans les dernières années où on a 6 grandes personnalités québécoises qui viennent inspirer nos étudiants des chantiers d'avenir lors d'ateliers, je dirais hautement privilégiés là, parce qu'on est avec des petits groupes, puis on est vraiment dans une dynamique d'échange avec ces grands leaders-là. Donc ça, c'est aussi une manière pour nous de contribuer aux compétences de nos étudiants et étudiantes, de les exposer à des styles de leadership complètement différents. T'sais, on a un Lucien Bouchard, qui est l'ancien premier ministre du Québec, on a Robert Lepage, le grand metteur en scène, on a Bernard Voyer comme explorateur, on a la fascinante Sophie Brochu, qui est à la tête d'Hydro-Québec, on a Madame Germain à la tête des hôtels Germain et Joanne Liu, qui a œuvré à l'international, notamment dans la crise Ebola, puis qui a été à Médecins sans frontières. Donc, c'est des perspectives de leadership très, très différentes où on pense que chacun de nos étudiants et étudiantes peuvent se retrouver ou aller chercher un morceau inspirant du profil d'une personne ou d'une autre pour développer leurs propres compétences à eux en leadership.
Puis, c'est encore nouveau, les chantiers d'avenir. On s'entend que c'est pas quelque chose qui est là à l'Université Laval depuis plusieurs années. Avez-vous des exemples de projets sur lesquels les étudiants et étudiantes travaillent dans le cadre des chantiers, puis avec quels partenaires ils ont travaillé?
Oui, ben t'as raison. En fait, je l'ai pas mentionné d'emblée, mais c'est très nouveau comme approche. On a commencé à y réfléchir en 2018. Puis tu vois, notre premier chantier est né à l'automne 2019. Donc, ça a été quand même très, très rapide comme manière de faire. Puis c'est un de nos objectifs. Hein. Si on veut résoudre les défis de société qui nous apparaissent urgents, il faut pas que ça nous prenne 10 ans à inventer des nouveaux programmes de formation, sinon on n'y arrivera jamais. Donc, on s'est donné aussi comme valeur celle de l'accélération de nos processus internes à l'université, donc de faire les choses un petit peu plus rapidement, quitte à s'ajuster en cours de route. Voilà. Donc, pour répondre à ta question sur les projets plus concrètement, il y a beaucoup, c'est très, très, très varié, hein, nos cohortes actuelles. Tu vois, là, on en a 3 en cours. Ils vont vivre des expériences complètement différentes selon le projet dans lequel chaque étudiant, étudiante est plongé. J'invite vraiment les auditeurs, auditrices à aller voir le site web pour voir les projets qui sont en cours présentement. Puis, dans les prochaines semaines, on va aussi ajouter ceux qui vont être proposés à nos prochaines cohortes, là, pour septembre prochain. Donc, ça vous donnera des idées plus concrètes. Mais juste pour toucher là, quelques exemples, là, en intelligence et transformation, c'est un chantier qui est autour de la transformation, qui est autour de l'innovation, souvent avec le numérique. Donc, dans les projets, ça va là, de développement d'applications mobiles, de suivi du bien-être psychologique, par exemple, des systèmes d'aide à la décision pour des pilotes d'avion. On a un projet aussi d'application de drones avec l'escouade canine d'un service de police d'une ville. On a des projets sur le numérique au musée, parce qu'il ne faut pas oublier notre milieu culturel aussi a besoin de se transformer, a besoin de ce volet-là numérique. Puis donc, beaucoup de projets autour de cette question-là du numérique, jeux sérieux en éducation financière avec Desjardins, par exemple. On a un projet de toiture intelligente qui va d'ailleurs, l'Université Laval est partenaire de ce projet-là. Donc, nos partenaires, c'est très, très, très varié. Ça va de la toute petite entreprise, souvent des startups même, qui profitent du chantier pour se donner une expertise à travers un étudiant, une étudiante qui les accompagne. Ça va jusqu'à la très, très grande organisation multinationale. C'est très variable. En sécurité alimentaire, c'est des projets de marché communautaire, de jardin communautaire, notamment avec ceux du Bassin-Louise, avec les urbainculteurs. On a aussi des projets de très grande envergure d'accompagnement de gouvernement, par exemple au Sénégal, pour élaborer des politiques en sécurité alimentaire. Il y a un projet de nouvelles technologies agricoles en Haïti. Il y a des projets avec le CIUS autour des impacts de la COVID sur la sécurité alimentaire. On a des projets en milieu autochtone dans des écoles sur la sécurité alimentaire aussi. Donc, c'est hyper varié. Puis encore là, les partenaires peuvent être des petites organisations communautaires comme des grandes ONG à l'international. C'est très varié encore là, très hétérogène. Puis en EDI, les projets vont avoir lieu à l'été. C'est un peu différent là, quand je te disais que les structures de programme ne sont pas uniformes. Bien, en EDI, les projets vont démarrer à l'été prochain. Ça va beaucoup être autour de plans EDI dans les organisations. Il y a une urgence présentement de se donner ces plans-là. Donc, probablement que les projets vont être beaucoup articulé autour de ça. Puis dans ce chantier-là, en plus du projet, il y a une immersion. Donc, nos étudiants et étudiantes vont aller vivre, je dis souvent, vivre de l'intérieur, ce que c'est être marginalisé ou faire partie d'un groupe minoritaire. Donc, ils doivent aller dans une communauté ou dans un groupe de personnes qui font partie d'un groupe marginalisé pour vivre cette expérience-là de personnes qui vivent avec une différence et donc de le vivre de l'intérieur. Puis ça, on trouve ça vraiment précieux parce que ça touche les valeurs, ça touche l'expérience de la personne, puis c'est fort comme expérience d'apprentissage, ça. Quand on veut, après ça, développer des compétences, c'est très concret. Tu sais, je peux te parler pendant des heures de la réalité d'une personne en fauteuil roulant. Si je te fais passer une semaine en fauteuil roulant puis que tu dois aller faire ton épicerie, que tu dois te déplacer dans la ville, tu vas probablement apprendre beaucoup plus de choses que ce que je vais t'avoir expliqué de vive voix. Donc, on veut vraiment faire vivre une expérience à travers.
On n'en a pas parlé. C'est une question qui est intéressante aussi. Les étudiants qui arrivent dans ce programme-là vont aussi recevoir des bourses. Est-ce que tu peux me donner des exemples de ce que vous avez eu comme financement pour les étudiants qui seraient intéressés par ces programmes-là?
Mais c'est variable d'un chantier d'avenir à l'autre. Il n'y a pas des bourses disponibles dans tous les chantiers d'avenir, bien qu'on y travaille. Là, on a eu notamment des dons via la Fondation de l'Université Laval. On travaille ardemment là, à développer la philanthropie autour des chantiers d'avenir. Je te dirais que c'est un objet de l'éducation qui intéresse beaucoup, beaucoup les donateurs. Donc, on y travaille pour lever des bourses, effectivement. Il y en a de manière plus accentuée dans le chantier en intelligence et transformation. Je vais laisser peut-être peut-être les gens qui viendront te parler de ce chantier-là, élaborer plus là-dessus. Mais avec le programme MITAX, c'est possible d'avoir un bel appariement aussi. Donc, l'organisation partenaire va donner un montant d'argent à l'étudiant. Puis, ça, avec l'effet MITAX, ben, ce montant-là est pratiquement doublé, là, ce qui permet là, de faire la formation en étant en très grande partie rémunéré pour le faire. Ça, c'est une façon de le faire. Je parlais tout à l'heure là, des gens qui sont dans des start-up. Souvent, c'est des employés de la start-up qui disent « OK, ben moi, je vais faire la maîtrise en même temps, puis on va mettre ça dans notre R&D, dans notre organisation. » Fait qu'on est capable d'être rémunéré là, sous forme soit de salaire ou de bourse pour le faire. Donc, il y a différents mécanismes qui rendent possible le financement des étudiants là, dans chacun des chantiers d'avenir. Puis, c'est un petit peu plus peaufiné, je dirais, dans le chantier intelligence et transformation parce qu'on a vraiment un réseau de partenaires qui a cette volonté-là, cette capacité-là aussi de mettre des sous en innovation puis de dire, ben nous, on a un projet concret quand je te parlais tantôt de développement d'applications. Et souvent, dans les organisations, ça vient avec un budget, donc ce qui permet de lever des bourses pour nos étudiants et étudiantes. Dans les deux autres chantiers, là, en EDI puis en sécurité alimentaire, on a des dons qui ont commencé à entrer, là, notamment de Cogeco, il y a Technion également, donc différents partenaires qui ont donné des sous, ce qui va nous permettre de mettre en place des programmes de bourse qui sont peut-être pas de la même envergure là, d'un soutien financier qui va sur toute la durée des études, mais au moins pour donner un petit coup de pouce dans les projets de nos étudiants et étudiantes qui, des fois, demandent soit un déplacement à l'international quand on pourra ou un investissement là, local là, dans un projet ou autre, là, peu importe la dépense. Donc, on essaie d'y travailler. C'est un bout qui demeure à attacher là, dans le cadre de deux chantiers.
Pour terminer, quel est l'impact dans la recherche universitaire dans la société des chantiers d'avenir? Est-ce que vous avez déjà vu des changements qui se sont amorcés ou c'est encore à voir au fur et à mesure que les chantiers vont exister?
C'est une bonne question. Il y a deux volets. Là. Le volet recherche, c'est sûr que pour nous, c'est super important que l'enseignement et la recherche soient imbriqués, là, qu'il y ait des allers-retours entre les deux. C'est vraiment au cœur des chantiers d'avenir. Par contre, on a tellement sorti nos programmes rapidement, puis on a tellement pédalé fort pour le faire qu'on s'est dit, OK, ben là, on va ouvrir les maîtrises sur mesure, puis le volet recherche va arriver par la bande, par après. Donc, il y a déjà des morceaux qui se placent là, dans chacun des chantiers d'avenir, notamment avec MITAX, dont je viens de te parler. Puis, en sécurité alimentaire, il y a un super beau projet de corpus de données transversales à tous les projets autour de la sécurité alimentaire. Donc, dans chaque projet que nos étudiants mènent, puis c'est à l'international comme sur le plan local. Donc, vraiment d'aller cueillir des données qui sont les mêmes avec les mêmes questions, là, avec les mêmes variables d'un domaine à l'autre, d'un milieu à l'autre, pour avoir un corpus de données qui soit commun et non pas d'avoir plein de petits projets un peu détachés. Donc, ça va nous permettre ça d'avoir une vue un petit peu plus globale de cette problématique-là de sécurité alimentaire. Puis en EDI, tu vois, on vient de déposer une grosse demande de subvention qui pourrait donner lieu à un volet recherche beaucoup plus structurant en équité, diversité, inclusion. On se colle notamment aux instituts. Hein, dans ce cas-ci, l'Institut EDI, EDI 2 est super important, puis vient amener beaucoup de recherches là, autour de ce chantier-là. Ton deuxième volet de ta question là, qui était autour de l'impact dans la société, bien, on le voit beaucoup. Déjà, les étudiants qui sont tous en projet, ils ont un impact réel dans les organisations dans lesquelles ils sont à pied d'œuvre. C'est pas des simulations, ce sont pas des projets où on imagine une situation. On n'est pas dans de la simulation, on est vraiment dans le réel. On est dans contribuer concrètement à un besoin. Puis tu vois, je parlais récemment avec une étudiante qui est dans le chantier en sécurité alimentaire. Elle était à la toute fin de sa première session. Puis déjà, elle était à l'emploi, elle a été embauchée dans un organisme qui œuvre en sécurité alimentaire à l'île d'Orléans. Donc, tu sais, les organisations déjà disent, ben nous, on va avoir besoin de cette main-d'œuvre-là. Donc, on sent déjà qu'il y a un impact, même quand la formation n'est pas encore terminée. Donc, ça, c'est très positif pour nous. Puis, il y a des très, très belles réactions au fait que, comme université, on se positionne comme voulant répondre d'une manière ou d'une autre aux grands défis de société. Tu sais, de dire, OK, ben on va réinventer notre manière d'offrir de la formation. en complémentarité à ce qu'on offre déjà, parce que des experts disciplinaires, des spécialistes dans les grands domaines de savoir ou de science, ça va toujours en prendre, on va toujours en avoir besoin dans nos sociétés. Mais de dire en complément à ça, on va œuvrer à des nouvelles façons de former les gens pour répondre aux grands défis de société, ben déjà la société nous renvoie le message que c'est un bon pari là, de faire ça.
C'était super intéressant de parler des chantiers d'avenir. Tous les liens vont être disponibles dans la description de l'émission et dans notre site internet. Merci beaucoup Julia pour la participation à l'émission. Je pense que ça a peut-être ouvert les yeux de certains étudiants, étudiantes des sexes supérieurs qui voudraient se former autrement. Puis bonne écoute de Chiz 94.3 FM.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Pour ne rien manquer des nouvelles culturelles à Québec, rejoignez-moi et mon équipe pour parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire.